maladie qui touche 800 000 patients en France, 140 000 de plus chaque année. Et demain sera la journée mondiale consacrée à cette maladie d'Alzheimer, ainsi nommée parce que le premier scientifique à l'avoir décrite en 1906 s'appelait Alois Alzheimer. Les enjeux scientifiques et de société sont très importants. On dénombre près de 50 millions de cas de démence dans le monde. Tous ne relèvent pas de la maladie d'Alzheimer. Sa définition même n'est pas si évidente pour le grand public. Pour répondre à vos questions et dialoguer avec vous jusqu'à 13h45, l'un des tout meilleurs spécialistes français de ce sujet. Bonjour, professeur Bruno Dubois.
Bonjour.
Directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Où en est l'espoir d'un traitement? Il y a ce produit appelé aducanumab qui a reçu l'autorisation de l'Agence américaine du médicament. À quoi sert-il?
Il sert à détruire les plaques amyloïdes qui sont une des deux lésions que l'on observe dans le cerveau des patients. Le problème, c'est que détruire les plaques, c'est bien, traiter des lésions, c'est bien, mais guérir des symptômes, c'est mieux. Et il est évident que les médicaments que l'on développe ont pour finalité d'améliorer les symptômes. Et c'est la première fois qu'un médicament détruit à la fois les plaques et semble améliorer un peu les symptômes. C'est un effet qui est limité, mais qui est la première indication qu'enfin, le fait de détruire les lésions a une conséquence sur les symptômes. Et donc, si vous voulez, c'est une porte qui s'ouvre. Parce que, j'ai tendance à résumer ça, on est devant un escalier très haut, mais ça y est, on commence à monter l'escalier, on est sur la première marche. Il y en a d'autres avant que l'on puisse vraiment arriver à traiter définitivement cette maladie.
Et qui fonctionne ce médicament sur des patients de quel type, qui sont à un stade précoce de la maladie?
Alors c'est toute la question, c'est que initialement ces mêmes médicaments étaient étudiés chez des patients plus évolués dans leur maladie et les résultats positifs sur les lésions étaient négatifs sur les symptômes. Et c'est là que nous avons proposé à l'époque une nouvelle approche diagnostique permettant de repérer des patients à un stade beaucoup plus précoce. Et en appliquant ces méthodes, on a pu étudier ces mêmes médicaments, ou les nouveaux médicaments, sur ces patients à des stades beaucoup plus précoces. Et c'est l'approche qui semble être positive, puisque enfin, on a un signal chez les patients relativement précoces.
Ça représente combien de personnes en France, en imaginant qu'ils soient tous traités avec ce médicament? On parlera du coût ensuite.
Alors, c'est compliqué, parce que si vous voulez, il va falloir que les traitements qui vont pouvoir bénéficier de ce médicament répondent aux critères qui ont été définis dans les études. Mais il y a un travail récent qui vient d'être fait et qui montre qu'il y aurait potentiellement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce qu'il va falloir faire des liquides céphalo-rachidiens, des ponctions lombaires pour s'assurer qu'ils ont bien les critères de diagnostic. Donc finalement, ça va être un nombre relativement limité de patients lorsque ces médicaments, si tant est qu'ils viennent, seront sur le marché.
À ce stade, de toute façon, voilà, vous dites si tant est qu'ils viennent, il y a une autorisation aux États-Unis. Où en est-on en Europe et en France?
Alors, le dossier a été déposé à l'Europe. On n'aura pas la réponse de l'Europe avant la fin de l'année. Et ce n'est que lorsqu'il y aura la réponse européenne que l'on pourra l'obtenir en France. Et la France est dans l'état d'esprit, si la réponse européenne est positive, de faire ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire un système de distribution rapide. Ouais. Et les patients français pourraient l'avoir rapidement, mais à la réserve que l'Europe donne un signal positif.
Y a-t-il suffisamment de patients pour les essais cliniques en France, professeur Dubois?
Alors vous touchez le doigt un problème intéressant, c'est qu'il y a effectivement un peu de difficulté à réaliser ces études pour un certain nombre de raisons. D'abord, ce sont des études qui sont quand même assez lourdes. Deuxièmement, on a des critères d'inclusion qui sont extrêmement restrictifs, où il y a des patients d'un certain âge qui n'aient pas de comorbidité, qui acceptent que l'on fasse des examens. Notamment, j'ai parlé de la ponction lombaire, c'est quand même pas un geste tout à fait anodin. Et puis donc il faut le faire savoir, nous sommes intéressés, bien sûr, c'est très important que nous puissions avoir des patients qui viennent et qui acceptent de pouvoir bénéficier de ces traitements, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment espérer que les médicaments qui sont en développement auront un effet sur leur maladie.
Les médicaments, parce que là, on a parlé d'un traitement en particulier, il y en a d'autres qui sont en développement.
Ah oui, ils arrivent. Alors, il y en a, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Quand vous dites ils arrivent, c'est depuis quelques mois, c'est depuis ces progrès-là, c'est l'affaire depuis l'année dernière?
Si vous voulez, il y a toujours eu depuis 20 ans une recherche sur ces médicaments qui sont ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Mais il est vrai que au fur et à mesure que les années passent, les médicaments qui sont en développement s'améliorent. Et les données précliniques, c'est-à-dire les données que l'on a sur des modèles animaux, et les études de phase 2, c'est-à-dire les études initiales que l'on a avec ces médicaments, montrent que les derniers qui sont actuellement en train d'être développés sont de plus en plus efficaces et donc laissent espérer que enfin on va pouvoir, dans les années qui viennent, avoir un médicament efficace.
Voilà pour les traitements. On va parler du diagnostic dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on entende le témoignage de Jean au Standard France Inter. Bonjour Jean. Denis, pardon, excusez-moi, j'avais deux prénoms différents sur ma petite fiche. Bonjour Denis.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, plus que la recherche sur les médicaments qui m'apparaît nécessaire, j'aimerais apporter mon témoignage puisque j'ai accompagné ma mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais comme la plupart de ces personnes, malheureusement, ils sont souvent dans les EHPAD et malgré tous les efforts que le personnel peut déployer, ces établissements ne sont pas du tout adaptés à cette lourde maladie. Et comme d'habitude, la France manque cruellement d'établissements spécifiques à cette maladie qui pourraient aider justement les familles à mieux comprendre et à mieux accompagner leurs proches.
Merci Denis. Professeur Dubois, vous êtes d'accord avec ce témoignage ?
Ben, c'est-à-dire que
est-ce qu'on progresse tout de même dans ce domaine aussi.
On progresse parce que les EHPAD au début, si vous voulez, c'était plutôt des structures d'hébergement et puis maintenant c'est devenu de plus en plus des structures de soins du fait de la lourdeur de plus en plus importante des patients qui y sont reçus, des sujets qui sont reçus. Et donc les EHPAD cherchent à s'adapter à cette modification progressive de la population qu'ils reçoivent. Et le point fondamental, si vous voulez, c'est le ratio personnel-patient. Et donc c'est ça l'indicateur de cette adaptation, c'est-à-dire c'est à eux d'augmenter autant qu'ils le peuvent ce ratio, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnel pour ces patients-là.
Ce village Alzheimer qui a été créé dans les Landes et qui est à l'essai, disons-le comme ça, depuis plusieurs mois, avec l'idée de reconstituer une communauté et d'être à mi-chemin entre une prise en charge médicale mais aussi un entourage social. Est-ce que ça fonctionne, les premiers retours qu'on peut avoir, et est-ce que c'est la bonne piste ?
Alors, les premiers retours sont positifs, c'est la bonne piste, avec une réserve, c'est que c'est quand même dans une tranche de patients qui est relativement bien définie, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir de patients trop évolués pour pouvoir bénéficier finalement de tout cet environnement qui est intéressant.
Question de Marc au Standard. Bonjour Marc.
Ah oui, bonjour.
Vous nous appelez du Pas-de-Calais. Je vous en prie.
En fait, ma question, elle se résume en un mot, avant que ça se déclenche. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut mener personnellement sur le plan de son régime alimentaire, sur le plan sportif, sur le plan cognitif, sur le plan l'entraînement intellectuel, etc., qui permettent donc d'éviter ce type de maladie, voire éventuellement de le freiner. Voilà.
Professeur Dubois.
Oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, on est beaucoup dans l'avant maintenant, de plus en plus dans l'avant. Merci de poser cette question. Il y a des indications, des données qui montrent que l'on peut, grâce à un certain nombre d'actions, comme celles dont vous avez parlé, Marc, qui peuvent retarder l'entrée dans la maladie. En d'autres termes, ça n'empêche pas la maladie. Les lésions sont là. On sait que les lésions, d'ailleurs, anticipent la survenue des symptômes. Mais par un certain nombre d'actions, on peut retarder l'expression de ces lésions et donc retarder l'apparition des symptômes. Pourquoi ? Parce que
l'apparition... Pardon, très concrètement, quelles actions ? Quoi ?
Eh bien, par exemple, l'activité physique, par exemple, la stimulation cognitive, par exemple, l'interaction sociale, tout ce qui vous maintient. Le cerveau, alors il y a deux choses, il y a deux réponses. Le cerveau, c'est comme une fleur, il faut l'alimenter. Plus vous lui donnez, faut l'arroser. Oui. Plus lui donner de l'information, plus il traite de l'information, mieux
il fonctionne.
Et puis deuxièmement, l'effet des lésions va pouvoir être retardé si par ailleurs vous avez une bonne oxygénation cérébrale. Si vous luttez contre l'hypertension artérielle, si vous luttez contre le diabète, si vous luttez contre ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, toutes ces maladies cardiovasculaires qui peuvent retentir sur la circulation cérébrale, ça va faire que, alors que vous avez des lésions d'une autre maladie, de la maladie d'Alzheimer, vous allez les exprimer plus ou moins tôt suivant l'état vasculaire de votre cerveau.
Alors, vous nous disiez à l'instant qu'il y a une phase asymptomatique de la maladie, des lésions mais pas de symptômes. Est-ce qu'on progresse aussi dans le diagnostic et comment progresse-t-on ? Quoi de neuf, si j'ose dire ?
Alors c'est l'enjeu du moment, bien sûr. C'est cette phase-là, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant des médicaments qui sont actifs sur les lésions. Donc évidemment, on se dit, mais alors c'est génial, il suffit de repérer des gens qui sont à risque et pour pouvoir les traiter et peut-être et peut-être empêcher l'entrée dans la maladie. Et c'est tout l'enjeu. Mais il y a un problème éthique important qui est que on peut mettre en évidence aujourd'hui les lésions car on a maintenant, grâce aux recherches sur les biomarqueurs, des signatures biologiques des lésions dans le cerveau.
Ça veut dire qu'avec une prise de sang ?
Alors aujourd'hui avec une ponction lombaire, mais demain peut-être avec une prise de sang, nous travaillons là-dessus, nous pourrons peut-être avoir des informations assez précises sur la présence de lésions cérébrales. Mais encore faut-il démontrer que la présence de ces lésions suffit à déterminer formellement un risque de survenue de la maladie. Et c'est tout l'enjeu éthique, parce qu'il n'est pas question de traiter des sujets normaux pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais. Ouais. Et c'est tout l'enjeu, c'est de ce que j'appelle la définition du risque. Il faut que l'on ait maintenant des idées claires sur, lorsque quelqu'un viendra nous voir, a une plainte de mémoire, a une inquiétude, parce que dans sa famille, etc., etc., il va falloir que l'on puisse évaluer très précisément le risque qu'il a de développer la maladie. S'il a 99% de développer la maladie dans les 6 mois, là, je le traite. Oui. S'il a 20% de développer la maladie dans les 20 ans, je ne vais pas le traiter.
Oui. Facteur génétique, par exemple, vous prendrez ça en compte également ?
Il faudra le prendre en compte, non pas la mutation génétique immuable qui fait que quand on a l'anomalie génétique, on exprime la maladie quoi qu'il arrive, mais plutôt dans le sens de ce qu'on appelle ces facteurs de risque génétique. Il y a des variants génétiques. Vous avez les cheveux d'une certaine couleur, les yeux d'une certaine couleur. Oui. Bon, eh bien, on a tous des variants génétiques et dont certains vont influer sur le métabolisme de la maladie. Et pour peu qu'on en ait un ou deux qui agissent tous les deux sur la même voie métabolique, ils peuvent faire apparaître la maladie de façon plus précoce. Donc il faut qu'on étudie justement ces facteurs de risque génétique, c'est-à-dire qu'il y a des grosses études, parce que c'est sur des échantillons considérables, que l'on va pouvoir arriver à connaître ces facteurs de risque, et ça sera certainement un des éléments importants de l'algorithme de prédiction.
Parmi les facteurs de risque, est-ce que le manque de sommeil est un facteur de risque important de développer à terme une maladie d'Alzheimer ?
Alors, la réponse doit se faire de façon mitigée. C'est-à-dire qu'on a montré qu'au cours du sommeil, il y avait, un traitement qui se faisait des anomalies biologiques du cerveau. Donc le sommeil est un moment où on va filtrer, où on va pouvoir améliorer les lésions ou les dégradations qui ont lieu. Bon, ça se fait pendant le sommeil. Donc on peut considérer que si on raccourcit le temps de sommeil, peut-être que ce processus de nettoyage
se fait moins bien.
Cela dit, on n'a pas formellement montré qu'il y avait une relation entre la survenue de la maladie et la durée de sommeil.
On sait dire, vous savez dire très simplement, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer aujourd'hui ?
Je dirais, c'est une maladie du cerveau qui est liée à des lésions que l'on connaît. Ces lésions débutent le plus souvent au niveau d'une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, raison pour laquelle la maladie commence souvent par des troubles de mémoire. À ne pas confondre avec la plainte de mémoire, qui est un phénomène banal à partir de 60 ans.
Oui.
Là, c'est l'atteinte hippocampique s'accompagne d'un syndrome amnésique que l'on met en évidence dans des tests de mémoire. Donc il faut aller en consultation de mémoire quand on a une inquiétude sur sa mémoire.
Donc vous savez parfaitement aujourd'hui distinguer la maladie d'Alzheimer d'autres formes de ce qu'on appelle la démence sénile.
Ben, si vous voulez, oui et non, puisqu'on considère.
Je pense aux auditeurs qui, il y a toujours un moment de flou, de gris, et on s'inquiète peut-être inutilement ou peut-être pas.
Si vous voulez, on va retrouver dans la démence sénile à peu près les mêmes anomalies cliniques et histologiques, si ce n'est que c'est une maladie qui apparaît beaucoup beaucoup plus tard dans la vie des gens et dont l'impact n'est pas le même. Quand vous avez une maladie d'Alzheimer à 60 ans, je vous assure que ça a des répercussions considérables. Évidemment. Parce que ce sont des gens qui sont encore en activité professionnelle, qui ont encore des enfants jeunes, une femme ou un mari jeune. Ouais. Et donc ça modifie complètement le projet de vie. Quand cette maladie survient à 85 ans ou 90 ans, évidemment, la répercussion qu'il y aura sera différente parce que tout l'écosystème s'est déjà mis en place.
Bien sûr.
Et ce sont des gens qui finalement ne vont pas avoir un impact considérable dans leur fin de vie.
Merci beaucoup, professeur Dubois, d'être venu dans les studios de France Inter.
Merci à vous.
Et merci pour vos réponses très claires sur un sujet aussi difficile.